Mamba.
Nzambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci pour votre fidélité à la radio Nzamba, Arrêtez à Kawé. Soyez tous les bienvenus dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, les grands événements qui ont marqué la semaine qui vient de s'écouler. À la mise en onde, Jospin Douimana, au micro pour la présentation, c'est Jean-Georges Kibogora. Dans quelques instants, les détails de ce journal des journaux.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue encore une fois dans ce journal des journaux. L'Union européenne a maintenu les sanctions ciblées visant le ministre Bondé de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Gervais Ndirakobucha, et Godefroy Bizimana, chargé d'émission à la présidence de la République du Burundi. Les deux hommes forts du régime de Gitega sont sous sanctions internationales pour les crimes commis depuis 2015. Réveillant Vazikamwe nous fait le point.
Ces sanctions portent sur l'interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et le gère des avoirs. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Gervais Ndirakobucha, et le commissaire de police principal, Godefroy Bizimana, chargé de mission à la présidence de la République du Burundi, avaient été préalablement informés de cette décision au mois de septembre cette année. Selon l'article publié dans le journal de l'Union européenne, les deux proches collaborateurs du président Evariste Ndayishimiye avaient jusqu'au 29 de ce même mois pour demander des clarifications au Conseil sur les sanctions dont il faut objet. Un mois plus tard, l'Union européenne a reconduit ses sanctions ciblées. Pour rappel, c'est en octobre 2015, au plus fort de la contestation du troisième mandat, qu'une partie des Burundais ont qualifié d'illégal, dit défunt Pierre Nkurunziza, que l'Union européenne avait pris ses sanctions contre ces deux personnalités à raison de leur rôle central dans la sanglante répression des opposants. À cette époque, Gervais Ndirakobucha était chef de cabinet au bureau du chef de l'État et Godefroy Bizimana, directeur adjoint de la police nationale du Burundi. L'Union européenne accusait l'un comme l'autre de s'être activement impliqué dans des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, y compris par des actes constituant des atteintes graves aux droits de l'homme. L'Union européenne les impute aussi des activités considérées comme compromettant la démocratie au Burundi ou faisant obstacle à la recherche d'une solution politique à la crise burundaise. Pour le rappel, le premier ministre Alain Guillaume Bignoni, quant à lui, est sous sanctions américaines. Ainsi, l'Union européenne montre qu'elle ne croit pas au discours des nouvelles autorités burundaises qui vantent la paix et la sécurité qui règnent sur tout le territoire, alors que les assassinats ciblés, les disparitions forcées, des arrestations dominent l'actualité au Burundi. Aucune autorité burundaise n'a encore réagi à cette décision de l'Union européenne.
Et dans l'entretemps, au moins 42 personnes ont été tuées dans une période de 30 jours, 24 tués et jetés dans la plaine de la Rusizi, dans les provinces de Bujumbura, Cibitoki et Bubanza. Les victimes étaient difficiles à identifier. Les autorités administratives et policières se sont empressées pour ordonner l'enterrement des corps. Les habitants de ces localités demandent des enquêtes indépendantes pour connaître l'identité et l'origine des personnes tuées. Et selon maître Jean-Dieu Guimana, un des défenseurs des droits de la personne humaine, ces cadavres retrouvés dans les rivières montre à suffisance que le pays n'est pas paisible, contrairement à ce qu'affirme toujours le gouvernement du Burundi.
Il s'agit d'une manifestation de la criminalité d'État, une criminalité galopante et récurrente en cette période où le gouvernement se contredit jour par jour en affirmant que la paix et la sécurité règnent partout dans le pays, alors que la violation des droits humains continue à parler d'elle à travers tout le pays. Ces cas de cadavres est aussi un témoignage éloquent que l'État est impliqué dans des crimes graves qui sont commis contre des citoyens, parce que ces citoyens qui sont assassinés en clandestinité sont souvent des personnes arrêtées par les agents de l'État et qui sont par la suite soustraites des cachots, soit de la police, soit du service national de renseignement, ou des personnes qui font objet de disparitions forcées et les personnes qui par après ne reviennent pas dans leur famille. Nous condamnons donc son comportement barbare, inhumain et cruel qui caractérise le gouvernement en place, parce que ce genre de crimes ne peuvent pas se concevoir sur le long terme si les agents de l'État ne sont pas impliqués. Nous pensons que il est grand temps que le gouvernement joigne la parole à l'acte et que cette épée et sécurité qui sont chantées à longueur de journée puissent effectivement être vécues par la population burundaise. Mais nous pensons qu'il est grand temps pour que le Burundi puisse avoir du répit. Nous en appelons donc à la responsabilité du régime politique en place pour qu'il puisse donner la paix au Burundi et puisse mettre fin à ces pratiques criminelles qui ne font qu'aggraver la situation des droits de l'homme qui est critique notamment depuis 2015.
Et c'est dommage qu'une femme qui est dans les instances de prise de décision soit une entrave aux droits et à la dignité de la femme. Explication de Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Et c'est au moment où l'administrateur de la commune de Ruhororo de la province de Ubanza a ordonné un couvre-feu à partir de 20h pour toutes les femmes de sa commune. Marie-Louise Barichako.
La décision prise par Madame Birukundi Mamerke, administrateur de la commune Ruhororo, est déconcertante et perturbe plus d'un. Elle a fixé que les femmes doivent être rentrées à la maison au plus tard à 20h. Premièrement, de telles mesures sont normalement prises dans des situations particulières où la sécurité du pays est menacée lorsqu'il devient impératif d'imposer le couvre-feu. Il n'est dit nulle part dans cette décision que la situation de la commune est perturbée. Il est donc évident que la décision de Madame l'administratrice est inopportune. Ensuite, cette décision est contraire aux progrès réalisés à ce jour dans le domaine de la promotion et la protection des droits humains des femmes et de l'égalité hommes-femmes. Nous, femmes et filles, attendions que notre pays suive ce même trajectoire de l'éradication de la discrimination des femmes et des filles et du respect de leur dignité au même titre que les hommes. C'est une femme comme nous, ayant accédé aux fonctions de prise de décision suite au plaidoyer que nous n'avons cessé de mener, qui prend de telles mesures discriminatoires à l'égard des femmes. C'est quand même étonnant. Cette démarche serait-elle dans la même ligne de ce que nous avons entendu il y a quelques jours, que l'égalité homme-femme ne sera jamais possible au Burundi? Est-ce possible que ce soit les femmes en position de direction elles-mêmes qui entravent le droit et la dignité des femmes? Quand on parle de comportement indigne dans les bars, serait-ce particulier aux femmes? Les femmes seraient-elles les seules qui se comportent de la sorte? Sinon, pourquoi ne pas punir tous ceux qui le font conformément à la loi applicable? Nous ne saurions jamais soutenir le comportement déshonorant dans notre pays, mais que cela ne soit pas une autre occasion de discriminer. L'obligation d'avoir une attitude et un comportement digne incombe à tous les citoyens, hommes, femmes.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Nous poursuivons ce journal des journaux, la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Cela fait exactement 7 ans que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée choisie à mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français au Mali. C'était le 2 novembre 2013. Plus de 800 journalistes ont été tués au cours de la dernière décennie, selon les statistiques de l'UNESCO, qui exhorte la fin de l'impunité par les États membres des Nations Unies. Le Congrès africain des journalistes demande au gouvernement africain de poursuivre les auteurs de ces crimes. Il demande également à ses gouvernements de s'engager dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur les femmes journalistes dans l'exercice de leur profession. Eddie-Claude Nininazou.
Pour mettre fin à l'impunité des crimes commis aux journalistes, dans un communiqué rendu public à l'occasion de cette journée, le Congrès africain des journalistes appelle entre autres l'Union africaine à mettre en priorité à l'ordre du jour les préoccupations des professionnels des médias sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité en vue de permettre aux journalistes de travailler librement tel que souhaité par son agenda 2063. L'OCAGE appelle les gouvernements africains à s'engager dans la poursuite des auteurs des crimes et la Cour africaine de se saisir des cas déjà connus en Afrique. Alexandre Nyungeko est président du Congrès africain des journalistes.
Le Congrès africain des journalistes appelle les gouvernements à enquêter et à poursuivre les auteurs de ces crimes.
Le président du Congrès africain rappelle qu'il n'est pas aussi facile de poursuivre des auteurs de crimes commis aux journalistes, car souvent ces auteurs sont forts puisque le système judiciaire du Burundi en est un exemple.
Dans certains pays comme le Burundi, où les commanditaires de ces crimes sont très puissants plus que le système judiciaire, et c'est pourquoi nous appelons la Cour africaine et les mécanismes et d'autres cours et tribunaux régionaux de se saisir de ces cas et de donner suite à ces cas qui ne fait que perdurer. En ce qui concerne le Burundi, bien évidemment, vous êtes sans ignorer que la presse et les médias ont été malmenés depuis des années. Aujourd'hui, nous citerons dans le cadre de cette journée deux cas emblématiques. C'est celui de Christophe Nyezabahizi et sa famille, décimée le 13 octobre 2015. C'est aussi le cas du journaliste du Wachu, Jean Bigirimana, porté disparu depuis le 22 juillet 2016. C'est d'autres cas aussi. Ce ne sont que des cas. C'est regrettable, effectivement, parce que jusqu'à maintenant, aucune lumière n'a été faite aujourd'hui.
Le Comité africain des journalistes appelle à l'Union africaine et ce programme sur les droits de l'homme à accélérer la mise en place d'un groupe de travail et des mécanismes nationaux devant surveiller, prévenir et protéger, poursuivre toutes attaques contre la sécurité des journalistes et mettre fin à l'impunité pour les crimes contre les journalistes. L'OCAGE rappelle qu'en 2018, l'Union africaine a dédié le thème de l'année « Gagner le combat contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Depuis, un nombre de journalistes publiant sur la corruption ont été tués, mutilés ou emprisonnés, poursuit le communiqué.
De l'autre côté, le 5 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire. Au Burundi, le phénomène s'observe et certains enseignants et directeurs sont souvent pointés du doigt, surtout en ce qui concerne les abus sexuels envers leurs éduqués. Selon Eulalie Nivizi, qui fut enseignante au Burundi, le gouvernement doit prendre des mesures sévères à l'endroit de ses éducateurs qui ne respectent pas les droits de ses enfants. Le point avec Bélancil Ninilazu.
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu'un enfant ou un adolescent est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Le harcèlement scolaire est une réalité au Burundi, selon donc Eulalie Nivizi, qui y a exercer le métier d'enseigner. Elle relève quelques défis que rencontrent ses enfants sur le banc de l'école.
Je voudrais déplorer que dans le milieu scolaire burundais, ce phénomène existe. Il y a des enseignants, il y a des directeurs, il y a des administratifs qui se permettent de violenter les élèves, soit par les paroles, soit par des actes, l'utilisation de la baguette. Ils battent les élèves jusqu'à les blesser. C'est une forme de torture. Donc des actes de violence existent bel et bien dans le milieu scolaire burundais, ce qui est déplorable. Et normalement, pour éduquer un enfant, il ne faut pas utiliser la violence parce que vous l'éduquez dans la violence, il grandit dans la violence. C'est d'ailleurs la première preuve d'abandon scolaire. Il y a des enfants qui, une fois battus à l'école, immédiatement, ils rentrent à la maison. Ce n'est pas normal que le discours officiel dise que l'enfant doit être traité humainement et que l'école doit être l'ami des enfants et que, par contre, des enseignants, des directeurs battent les élèves jusqu'à les blesser, jusqu'à causer même des entorses, jusqu'à traumatiser les enfants.
Eulalie Nivizi explique ce qu'il faut faire pour éviter ces violences.
Pour combattre ce phénomène, il faut que les directions scolaires, à commencer par le comité de gestion de l'école, organisent un dialogue en milieu scolaire pour prévenir ces comportements. Mais aussi qu'il y ait des enquêtes afin que tous ces cas de violence en milieu scolaire soient mis en évidence, soient identifiés et que le comité de gestion de l'école conseille à ses enseignants, ses directeurs qui torturent les élèves en classe. Éduquer l'enfant, on peut l'éduquer, on peut le punir de manière sévère sans toutefois le torturer. En cette période de crise, en cette période de comportement d'intolérance, les enfants peuvent même considérer que l'enfant, l'enseignant ou l'éducateur qui le traite avec violence est en train de faire des règlements de compte du type politico-ethnique. Ainsi, vous allez vous comprendre que l'enfant ne saura jamais qu'il est puni pour une cause juste tant que la punition dépasse l'âge de l'enfant, tant que ça va vers la provocation de la douleur chez l'enfant.
L'État doit punir sévèrement les enseignants qui infligent ces actes de violence aux élèves et instaurer une loi qui pénalise les auteurs de ces abus.
Et bien voilà, c'est par là que nous bouclons la boucle de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Inzamba Agathe Akawe. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.
Inzamba.
Inzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.